Est-ce que pendant cette absence, vous auriez des questions diverses à appréhender ? Oui, pour l'enregistrement, il faut parler.
Donc je reviens au mirage, donc au montée. Et j'avais une question concernant l'intuition.
Oui.
Donc, si j'ai bien compris, donc l'intuition, il y a, pour qu'on puisse avoir connexion, il faut travailler, nettoyer, en fait, sur le plan astral pour avoir cette connexion. Et mais ma question, donc là, c'est par rapport aux différentes aux qualités qu'il faut développer. Donc, on dit le maître du jeu à poule, c'est l'illumination, la... Voilà.
Alors, la réponse va être dans l'exposé du jour.
D'accord.
Nous appréhendons, à partir de l'union réalisée avec l'être permanent, c'est-à-dire l'âme, nous appréhendons l'état qui résulte de lumière. Et on va chevaucher ça avec l'illumination. L'être qui s'est réalisé a d'abord appréhendé comment la vie se manifestait. En partant des postulats de l'absolu, je ne reviens pas dessus, ça a été explicité. Les prises de conscience qui en ont résulté, la première prise de conscience, c'est de faire bien la distinction entre le soi et le non-soi. Le soi étant l'âme, et derrière l'âme, la racine de vie, la monade. Le non-soi étant les mondes de vie mineure que l'être a accueilli et pris en charge au fil de ses vies, et qui, dans cette vie présente, constitue son stade de réalisation, de maîtrise de ses vies mineures. La distinction entre le soi et le non-soi est capitale pour appréhender la réalité de la vie. Le non-soi a fait apparaître un monde mental, un monde émotionnel et un monde physique. Compte tenu de l'état de pollution de notre humanité, le monde mental connaît l'illusion, le monde émotionnel connaît le mirage, et le monde physique connaît Maya. L'être se trouve donc à clarifier ces trois mondes de vie mineure dont il doit ne pas dépendre et atteindre la maîtrise. Cela implique le processus de transmutation. Qui va être suivi par le processus de transformation. Ayant appréhendé sa transmutation, l'être réalise qu'il est une fontaine d'énergie. Et qu'il lui faut faire la distinction entre ce que l'on appelle les énergies et les forces. On entend par force les aspects lunaires de l'énergie. Ayant intégré cette réalité d'être un centre d'énergie, il intègre la notion qu'il doit apprendre à rayonner et diffuser les énergies de haute qualité. Il rentre dans le processus de transformation. Il réalise que le corps mental de celui qui donne la vie à la planète, je parle de l'homme céleste, ce corps mental correspond au plan atmique. Il réalise que le corps émotionnel de cet être correspond au plan bouddhique. Que le corps éthérique correspond au plan manasique. Ayant reconnu les qualités du corps mental céleste, le bien de l'ensemble. Ayant reconnu la qualité fondamentale du corps émotionnel, le beau, le plan bouddhique. Ayant reconnu la nature du corps éthérique céleste, manasique, le vrai, il s'engage dans une démarche dans les 12 secondes de son champ de conscience d'user de ses qualités divines. En faisant cela, il rentre dans un processus de purification de ces mondes. Et il entre dans une dimension planétaire, à savoir qu'il participe à la fusion du corps éthérique et du corps dense planétaire. Même s'il n'est qu'une petite cellule du vaste ensemble. Il a appris qu'il avait à construire le pont de lumière, le pont arc-en-ciel, l'Antakarana, entre son mental concret, lunaire, ayant saisi que ce mental concret était le mental composite des vies mineures de ses corps, et il tend le pont de lumière vers la partie supérieure du mental manasique. Il découvre que le mental dont il usait était mobile. Il appréhende le contrôle de ce mental concret et il tend vers l'alignement de son mental, l'âme, avec le mental supérieur manasique, première étape, il veille à être dans le vrai de la réalité des choses et des événements. Pour atteindre le mental immobile de l'homme céleste.
J'ai pas compris, mental mobile, mental immobile.
Le mental humain, concret, est mobile au sens où c'est une girouette. Qui nourrit en permanence, mais de façon extrêmement faible, des myriades de sollicitations de ses sens. Oui, c'est-à-dire que le mental, c'est de l'énergie, et quand il porte son attention sur telle ou telle saisie relationnelle, il alimente. Mais il n'a pas de puissance et d'efficacité véritablement, puisqu'en fait, il ne mobilise pas l'intensité énergétique. Il a dilué. Il apprend donc le rôle de la méditation, qui est de conduire le fil conducteur d'analyse d'un sujet en continu. Il apprend donc à fixer cette mobilité. D'accord. Hein, comprenons bien que dans ce contrôle de notre corps mental, nous avons à le contrôler, c'est-à-dire à stabiliser les informations, et non pas partir dans tous les sens en fonction des informations de nos corps, de nos sens, et à nous fixer sur un sujet choisi. Là, nous avons le processus de méditation. Ce qui veut dire, d'une façon générale, que lorsque quelqu'un étudie, analyse, développe un sujet, il entre en processus de méditation, qui deviendra spirituelle lorsqu'elle sera en alignement vertical vers le haut. Le problème à résoudre pour l'être humain, c'est le contrôle de cet outil énergétique. Qui doit rester, et j'insiste sur l'aspect, un sens de synthèse et non pas une fin pour lui-même. Là, je fais allusion à la dérive qui serait l'hyper-mental, dont nous voyons nos technocrates se satisfaire.
La dérive quoi ?
Pardon ?
La dérive quoi ?
La dérive de nos technocrates, qui n'en peuvent plus d'être émerveillés par le bel outil qu'ils ont dans la tête.
Mais ça veut dire que nous, au quotidien, pour prendre possession de ce corps mental, il y a deux voies, ou d'essayer de se mettre un peu dans le vide, dans le silence, pour se relier à l'observateur, ou, et ça c'est très dans le vent actuellement, c'est d'orienter ses pensées pour en faire des pensées créatrices, positives, orientées dans un sens précis.
Alors tu fais allusion en fait à deux démarches, à savoir le phénomène mystique où l'être se polarise sur une réalité qui l'éblouit, ou comme je viens de l'expliquer, d'appréhender l'outil mental. Alors il faut savoir que le mysticisme part de l'astral pour atteindre le plan bouddhique. En vous rappelant simplement qu'un mystique doit devenir un occultiste. Dans le processus de transformation, il entre dans sa dimension de centre d'énergie. Ce qui veut dire qu'il va veiller à ne faire usage que du vrai, du beau et du bien de l'ensemble. Là, nous sommes dans l'union réalisée avec l'être intérieur, c'est-à-dire l'être permanent, l'âme qui traverse le règne humain. Il a donc clarifié son espace mental, son espace émotionnel et son espace physique. Il est donc en liberté éthérique, en stabilité émotionnelle et en clarté mentale. Mais la clarté mentale, ça implique qu'il ne laisse entrer dans cet espace mental que des sujets, des idées choisies. Il ne se disperse pas dans tous les sens. Et là, vous voyez qu'il y a un processus qui enclenche de la mobilité à l'immobilité. L'immobilité, ça ne veut pas dire de faire le vide dans l'espace mental, ça veut dire de ne pas le laisser encombrer de n'importe quoi, inutile et futile.
La liberté éthérique, donc qu'est-ce que...
Maya, c'est les forces du mental, les forces de l'émotionnel qui descendent sur le plan physique. C'est ce qu'on appelle Maya. Hein, les énergies des plans supérieurs descendent jusqu'au plus bas de la matière, donc le plan terrestre. Et c'est sur le champ de la matière que l'expérience et la maîtrise est acquise. Je vous l'ai déjà expliqué, mais sachez que dans la dimension planétaire, on va voir que les sujets qu'on va appréhender ultérieurement, en fait, vont nous faire entrer dans toute cette aventure en majuscule, eh bien, c'est d'atteindre la dimension participative planétaire. Dans ce que l'on va appréhender, qui vous a été donné en tant que règle de groupe, nous rentrons en fait dans la dimension d'appréhender la volonté céleste. Alors vous allez me dire, en quoi on est concerné ? Le dessein du Père. Quand j'emploie le mot père, parfois, il faut sous-entendre tous les pères. C'est un terme générique qui implique toutes les grandes vies qui sont bien au-delà du règne humain. Dans leur propre évolution, le père, donc terme collectif, a comme dessein de pouvoir assumer la réalisation au mérite, c'est-à-dire de pouvoir dire « Moi, Dieu, je suis matière ». Toute vie étant dans la vie une, tous les êtres qui en arrivent au plus bas de la matière, c'est-à-dire le plan terrestre, étant entendu que dans les planètes, il y aura le plan terrestre, qui aura peut-être un autre nom, mais qui correspond à ce plan de contact matière. Eh bien, ce contact implique l'expérience d'unir les deux pôles de la vie. Esprit-matière. Et le challenge de ce deuxième système solaire, c'est que les vies puissent rejoindre les vies les plus jeunes et pouvoir dire en connaissance de cause, c'est-à-dire s'étant elles-mêmes réalisées dans l'aventure, moi, Dieu, je suis matière. C'est bon, ça suit ? Vous voulez une précision ? C'est bon ? Bon.
Moi, juste une petite précision donc, par rapport à ce travail de contrôle sur le mental. Parce que moi, ce qui m'arrive au quotidien là, c'est que je distingue les pensées qui me font du bien, celles qui me font du mal, pour dire simplement. Donc j'essaie d'orienter le plus souvent dans la journée sur des pensées élevées, voire des pensées de... Je prends des pensées de Jésus, par exemple. Mon père et moi, nous sommes un. Mon père et moi, nous sommes un. Un peu comme des mantras sur lesquels me fixer. Est-ce que l'attitude est juste et puis est-ce qu'on ne peut pas se disperser de pensées positives, disperser l'énergie dans...
Alors, ce que tu évoques est le passage du mystique à l'occultiste. Le mystique est en adoration. C'est-à-dire que d'une certaine façon, et ne prenez pas mon propos un aspect désobligeant, il se noie dans la lumière supérieure dans laquelle il plonge. Il est donc en extase. Et il va, d'une certaine façon, invoquer ces moments d'échappée. C'est-à-dire qu'il se sent oppressé par une situation ou autre, il quitte la terre pour aller au ciel.
Il ne surmonte pas.
Alors qu'en fait, l'occultiste, lui, il sera les pieds sur terre et il dira « c'est là où j'exerce la maîtrise de la situation ». Est-ce que vous voyez bien la différence ? Alors, quel est le contexte du mystique ? Eh bien, c'est qu'il sort du monde. Mais dans son évolution, il doit devenir Et le mystique est, se baigne dans les énergies d'amour christique. Dans la démarche de l'occultiste, lui réalise qu'il est la vie et qu'il doit devenir le Père. Et par conséquent, d'assumer cette maîtrise sur Terre. Ça veut dire servir la vie. Et comme je l'ai dit, le mystique sort du monde, s'isole du monde, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent dans les couvents, peu importe la religion, tandis que l'occultiste, lui, retourne dans le monde, et qui est son lieu de service. La démarche sera totalement différente. Alors, vous avez le mystique, vous avez le disciple, c'est-à-dire celui qui se discipline aux lois de la vie, qu'il a appréhendé. En cela, il est devenu omniscient. Et il lui faut maintenant devenir l'initié, c'est-à-dire celui qui assume la dimension de contrat de vie qu'il ressent. Dans la première partie de réalisation de l'union, je parle en théorie, parce que malheureusement, dans l'application pratique, c'est pas aussi distinct. Dans la première partie, l'homme apprend à se libérer de son karma, c'est-à-dire de ses erreurs passées et présentes de cette vie. Il va se discipliner et par conséquent solder son karma personnel. Et il va entrer dans la réalisation de devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un initié, et à partir de là, il rentre dans le karma dharmique. Oui, mais sachez ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que il pressent, il a reçu un contrat de vie, est-ce que pour autant, il y répond et il l'assume ?
Quoi le dharma ?
Le dharma, c'est le contrat de vie.
Sa mission.
C'est-à-dire pourquoi, au stade où il en est de son évolution, hein, puisque au stade où il en est, il est dans le soi, c'est-à-dire qu'il est libéré normalement de ses mondes, de ses chantiers. Mais par contre, il se trouve maintenant dans des responsabilités de vie consciente de soi. En d'autres termes, il a à servir la vie. Et à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, il saura ce qui est attendu de lui, ce pourquoi il est venu sur cette terre. Et là, il rentre en karma dharmique. Et pour sortir du règne humain, il lui faudra avoir un karma dharmique clair et net, accompli.
Le karma dharmique intervient à la cinquième initiation ?
Non, de la cinquième à la septième.
Cinquième à la septième.
Permettez-moi de vous dire que Maitreya, le Christ, avec tout le respect dû à ce grand frère, il a un dharma qui est de restaurer sur la terre le retour des guides.
En fait, le dharma, c'est une mission.
Un contrat de vie. Oui, mais c'est un contrat de vie.
Le dharma a toujours existé pour chaque vie.
Ah oui? Non, non, non.
Il existe toujours, sauf qu'à un moment donné, on...
Si tu veux, tant que l'être ne s'est pas réalisé en tant qu'être, on ne peut pas parler de dharma. Il a ses activités relationnelles vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de... Bon. Mais il n'est pas dans sa dimension d'être fontaine de vie réalisée.
Ouais, il n'est pas dans sa potentialité. Quoi. Il n'est pas encore dans sa potentialité.
Non, il n'est pas encore dans son action.
Pourquoi il est venu.
Comprenons bien que l'absolu émet des vagues de vie. Et vous pensez un instant que ces vagues de vie, qu'une vie serait insignifiante en tant que rôle dans la grande aventure de l'évolution? Vous pensez un instant que une vie, comme on dit, serait sans finalité, voilà. Et c'est là où on doit mesurer toute la richesse de la vie. C'est que toute vie porte en elle une caractéristique spécifique d'aboutissement. Et tout cela nous entraîne dans ce qu'on appelle la voie de l'évolution supérieure. Lorsqu'un être est en processus de transformation, il se prépare à cet objectif. Ça va pas se faire en une vie, mais ça va se faire symboliquement en 77 vies. Et c'est la manière dont il répond qui va petit à petit le prédestiner à l'un des 7 sentiers cosmiques d'évolution.
Que vous pouvez répéter, s'il vous plaît.
Lorsque l'être est en réalisation de transformation, il est donc en union réalisée. Il entame le processus de se présélectionner dans une des voies de l'évolution supérieure. La manière dont il va répondre à cette phase, à ce cycle, en fait, l'emmène dans ce processus d'orientation. Quand il intègre la notion que les énergies qui caractérisent l'homme céleste, le vrai, le beau, le bien de l'ensemble, qui ne sont que les 3 aspects de la nature de cet être, c'est-à-dire le pur, il se prépare à la transfiguration, c'est-à-dire à entrer en contact avec sa racine de vie, laquelle se trouve être dans le corps de l'âme de l'homme céleste, la monade.
Répétez, soit entrer en contact avec sa racine de vie.
Oui, laquelle se trouve dans le corps de l'âme de l'homme céleste, c'est-à-dire la monade, le plan monadique. Alors, ça, c'est la pureté. À cultiver la pureté et à tenir bon en constance, il entre dans l'aspect perfection. Au début, bien évidemment, il y aura des espaces limités de l'aspect pureté. on ne contrôle pas les outils humains aussi facilement, alors qu'ils ont servi pendant des milliers de vies, n'est-ce pas, à être fragiles. Lorsque la lumière de l'âme est inondée des énergies des trois plans supérieurs, manasique, dont je fais la distinction sur le plan mental, bouddhique ou christique et atmique, vous avez les pétales qui réceptionnent ces énergies, hein, dans le lotus égoïque, qui en fait font que ce lotus est pleinement épanoui. Lorsque la pureté est suffisamment stable, à ce moment-là, les trois pétales intérieurs libèrent le joyau et la monade entre en rayonnement. Vous avez le processus de transfiguration, d'illumination, au sens où, à nouveau, l'être est ébloui par la lumière de la monade. Et dans cette lumière, vous verrez une autre lumière.
Laquelle ?
La lumière du Père, la lumière de la monade. L'illumination est liée à deux phases. La première étant la troisième initiation où l'être est relié à sa racine de vie, la monade. Et la deuxième illumination, c'est lorsque, à la cinquième initiation, il est transfiguré, c'est-à-dire qu'il peut dire et affirmer en toute simplicité, mon Père et moi sommes un. Il n'y a pas de séparativité dans les processus, puisque ça se fait en superposition de phases, au même titre que vous avez le jour et la nuit, mais il y a l'aurore et il y a le crépuscule. Eh bien, quand ce processus se réalise d'illumination, autrement appelé l'état de samadhi ou béatitude, ça veut dire que l'être est conscient de soi. Il est conscient qu'en lui, il y a la présence. Il est conscient que sa racine de vie est l'œil du Père. Il est conscient qu'il devient un serviteur actif et il se trouve en charge d'un domaine d'expression de l'activité créatrice du Père. Il va donc prendre conscience en permanence, il est traversé par les énergies de vie. Il est sous impression. Alors, la chose la plus compréhensible, n'oubliez pas, c'est que Maitreya vous dit, chaque fois que vous pratiquez de justes relations, je suis en vous et vous êtes en moi, puisque je suis l'épicentre d'énergie d'amour pour l'humanité. Je dis bien pour l'humanité. En conséquence, l'être va progressivement réaliser que les voies du silence sont une réalité permanente en lui. Ça ne veut pas dire en continu, mais ça veut dire qu'il sera sous autre impression de présence. À ce stade, troisième initiation, première phase de l'illumination, il appréhende l'aspect volonté divine. C'est-à-dire qu'il lui faut maintenant comprendre ce que recouvre cet aspect de l'énergie de volonté et dont la mise en pratique s'appelle le service. Il lui faut donc appréhender cette énergie de volonté divine dont les caractéristiques principales sont énergie de purification, énergie de destruction, cette énergie élimine les phases de réalisation de civilisation qui, ayant joué leur rôle, ne sont plus conformes. Nous sommes actuellement dans une phase de ce genre.
C'est l'œuvre noire ?
Hein ?
C'est l'œuvre noire ?
Pourquoi l'œuvre noire ?
Non.
Ah oui, non, tu repars en alchimie, là. Qui était, je vous rappelle que la chimie, c'était que le moyen discret pour les initiés d'échapper à l'acquisition. Donc ils ont fait un habillage extérieur. Bon, mais non, là ce que j'évoque, c'est que cette énergie élimine ce qui n'est pas conforme au stade de progression. Ce qui veut dire qu'une civilisation va s'instaurer, elle aura son apogée et elle aura son achèvement. À partir de là, elle est cristallisée et elle est éliminée. Donc c'est pour que vous compreniez que en fait, eh bien, l'humanité progresse, instaure un monde de relations, et puis il s'avère que ce monde est dépassé à un moment donné par rapport à l'évolution des êtres. Eh bien, ce monde va être détruit. Alors il y a... Pardon ?
Ça suppose une évolution linéaire, alors ?
Non, en courbe. Comme la course du soleil.
En spirale, alors.
En spirale, et dans l'immédiat, le bout de la spirale fait une courbe. C'est C'est-à-dire que la civilisation, elle débute, elle émerge, elle a son apogée, et puis elle a son achèvement, et elle a fait son temps. Oui, c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans l'évolution humaine. Nous avons le Moyen Âge, l'âge moderne, et maintenant on est à la fin d'un cycle.
Mais donc là, on est plus évolué qu'en Atlantide. C'est la même expérience refaite, mais un peu autrement.
Alors, l'Atlantide a eu son apogée, et malheureusement, elle a chuté. Mais là, on n'est pas encore, parce que si vous reprenez un peu les cycles, on est dans le Kali-Yuga. Ça veut dire l'âge noir. Donc ça veut dire que on est plus près de la matière, mais ça veut dire aussi qu'on est tombé dans le matérialisme. Et on le voit. Ce qui motive aujourd'hui... regardez un peu le monde de l'activité économique. Il y a 50 ans, la motivation de l'époque était le travail doit être bien fait. Le travail bien fait. L'argent était la conséquence logique du travail bien fait. Aujourd'hui, c'est faire du fric. On est quand même descendu à cran en dessous. Mais comme on arrive à la fin de ce cycle, c'est la cristallisation et par conséquent les secousses. Alors les secousses, pourquoi ? Parce que nous venons de l'ère du poisson, des poissons qui développaient l'individualité de conscience, et nous rentrons dans le Verseau qui, lui, c'est la vie de groupe d'une part, et aussi l'ordre cosmique. Donc ce qui n'est pas conforme sera éliminé. De la cinquième à la septième lettre a assumé son dharma.
Le dharma de l'être ne passe-t-il pas par un dharma de groupe ?
Dans la réalité de la vie, il n'y a pas de séparativité. Ce qui veut dire que tout dharma est par définition au sein de la vie, donc du groupe. Actuellement, ce qu'attend le Père, c'est que s'instaurent de justes relations humaines. Au niveau de l'âme, je vous le rappelle, il n'y a pas ton âme, mon âme, il y a l'âme. Et par conséquent, nous sommes dans un cycle où le temps du non-soi doit se retirer, qui lui est séparatif. La quatrième hiérarchie créatrice, celle des monades humaines, ont à assumer cette réalité de la vie et par conséquent la notion de vie, de groupe et non plus d'individu. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas pour autant qu'on perd son individualité. Simplement, au lieu de tirer la couverture à soi, on participe au bien de l'ensemble. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la situation de la séparativité, de l'individualisme, a fait que, et ce n'est pas faire tel ou tel aspect de politique, le constat est le suivant. 80% des biens de l'humanité appartiennent à 20% de l'humanité. Et ces 20% de ces 20% détiennent encore 80% des biens. Nous sommes dans une structure pyramidale inverse. nous comprenons bien que la vie de groupe va impliquer la libération de ce matérialisme. Les richesses premières appartiennent à toute l'humanité. Et là, vous mesurerez le poids karmique qui pèse sur ces êtres. Ils peuvent être aujourd'hui assis sur un tas d'or. Le roi d'hier sera, le mauvais roi d'hier sera le mendiant de demain. Alors le père attend que ses fils conçoivent, pensent, élaborent, mettent en place une civilisation de justes relations. Quand l'être entre dans ses champs de conscience, en simple réflexion, il va dire « Ah ben, je suis cela, je suis le Père. » Et par conséquent, il n'a plus qu'à assumer. Alors chacun le fera là où il est, dans l'espace de champ d'activité qui peut être le sien. Vous avez plein d'êtres aujourd'hui qui, n'étant pas forcément en conscience intégrée de ce que l'on évoque, mais qui le vivent, et par conséquent, ils ont une démarche spirituelle dans le domaine où ils sont. Ils peuvent être dans la science, ils peuvent être dans les soins, ils peuvent être dans la littérature, voilà. L'important, c'est l'action menée dans la démarche du vrai, du beau, du bien, du pur. Tout au long des cours, en fait, j'ai fait lentement mais sûrement et émerger dans vos consciences, en fait, cet aboutissement qui permet à l'être en connaissance de cause, donc atteindre l'omniscience du divin. C'est pas d'être, comme on dit, des experts en sciences humaines. Nous sommes en sciences divines. Donc, c'est-à-dire comment est conçue la manifestation de la vie. Comment elle a été élaborée. En vous rappelant que, issue de l'absolu, eh bien, les lois de la vie sont nos lois. Nous avons simplement a émergé étant descendu dans la matière. Vous auriez des questions ?
Tu parles de matière et il y a une distinction entre matière et substance.
Alors, ça dépend comment on va regarder le concept. Le terme substance est utilisé pour appréhender l'énergie éthérique. La matière fait allusion à la matière dense. Mais il y a la matière en majuscule qui est en fait l'espace abstrait absolu. Étant entendu que pour assurer l'évolution, l'absolu va émettre des vagues de vie. Et dans la réalité, il y a les vagues de vie plus avancées qui deviennent esprit, et les vagues de vie plus jeunes qui vont représenter l'appellation matière. Mais dans la réalité, ce n'est jamais que en fait des fréquences de vie de différentes natures. Il faut par conséquent toujours bien distinguer tel concept par rapport à telle idée. Mais en fait, pour l'occultiste, il n'y a ni matière, ni esprit. Il y a simplement des hiérarchies de vie qui, se combinant entre elles, donnent la forme. Hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les vies mineures qui sont en nous sont l'aspect matière. Mais en fait, dans leur racine de vie, elles sont l'aspect mère. Et il faut aller à la pureté, qui est la nature même de ces vies. C'est pas parce que nous, on les brasse et on les pollue et autres, dans leur réalité, elles sont pures. Mais on les a à mi-donner. On les a souillées. Et c'est pour ça que nous avons à nettoyer. Esprit ou matière sont les deux pôles de la vie de même importance et de même nature. D'une façon courante, le terme substance désigne en fait l'éthérique. Donc quand on évoque sur le plan planétaire le vrai, le beau, le bien, le pur, c'est de la substance divine. Par rapport au plan mental, au plan astral et au plan physique, qui eux, c'est de la matière dense. Étant entendu que sur le plan du corps planétaire, le plan terrestre c'est le dense, la matière dense, l'astral c'est le liquide et le mental c'est le feu.
Oui, parce que la matière éthérique, effectivement, quand une personne décède brutalement dans un accident, elle ne comprend pas justement, il y a une substance éthérique qui la représente.
Bah, qui est elle? Elle est dedans. Voilà. Son champ de conscience est dedans. Voilà. Son champ de conscience est dedans, mais c'est temporaire. Parce que n'oubliez jamais que le corps éthérique est le prolongement gonflé du sutratma, c'est-à-dire du fil de vie. Donc quand l'être n'alimente plus son corps dense, eh bien en fait, cette excroissance, c'est comme un ballon, si vous voulez, énergétique, en fait, va se résorber et se retirer du plan terrestre. Il va remonter jusqu'à les retenues subtiles. Mais en vous rappelant que pour beaucoup d'êtres, les êtres du quatrième règne, la mort astrale est pire à vivre que la mort terrestre.
Pourquoi la mort astrale ? C'est quoi la mort astrale ?
Eh bien, quand tu perds ton corps astral. Tu dois te dépouiller des mondes dont tu donnes à qui tu donnes la vie. Ton corps physique, ton corps astral, ton unité mentale, ton corps mental, c'est les mondes de vie mineure à qui tu donnes la vie. Donc tu dois, quand tu te retires, quand tu remontes à ta réalité d'être, donc ton âme, voire au-delà, eh bien, tu te libères, donc tu meurs, tu te déchires, tu t'arraches. J'emploie de mauvais termes, mais peut-être que ça te fera mieux comprendre.
Mais il peut y avoir un détachement du monde astral.
Si tu as asséché la mer, c'est-à-dire que tu n'es plus dans les passions, les émotions, et là, tu traverses l'astral tranquille. T'as pas de station à faire. Par contre, un être du quatrième règne, il peut passer 100 ans de temps terrestre encore dans l'astral. Et il va refabuler tout son scénario. mais tu dois quitter ce monde. Alors si comme on dit, c'est résiduel, bah tu... Voilà.
Moi, je ne comprends pas l'intérêt des vies mineures à essayer de nous tirer en bas, en fait.
Ah, mais les vies mineures, elles sont pas, c'est pas leur intérêt, c'est simplement c'est que, comme elles n'ont pas de soi-conscience, elles fonctionnent en rapport à l'éducation, entre guillemets, qu'on leur a mise, que l'humanité leur a mise. C'est pour ça qu'on a tout ce monde de désirs, de passions, parce qu'on a laissé ces cavales, en fait, prendre le dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en chacun de nous, il y a ou il y a eu une entité lunaire qui synthétisait tout ces illusions et ces mirages.
C'est le gardien du seuil, ça.
Tu peux l'appeler le gardien du seuil. Et qui, en fait, et c'est là où c'est pernicieux, c'est que, en fait, plus tu la nourris, plus il te vampirise. C'est une pieuvre en toi. C'est l'hydre à neuf têtes. C'est pour ça que tu comprends que plus un être fume, plus il a envie de fumer. Plus il tombe dans l'alcool, plus il devient alcoolique. Parce qu'il y a un phénomène de vampirisation.
J'ai parfois du mal à distinguer dans la vie courante ce qui est du quand tu fais un travail, tu es repéré, on va dire, et sujet à contradiction par l'opposition, on va dire. Et en même temps, parfois, je me demande si ce qui se passe, c'est ça, ou si c'est juste des choses qui m'appartiennent, que j'ai à régler, qui sont des vies mineures.
Alors là, tu évoques une faculté que l'âme doit développer qui s'appelle le discernement et la discrimination. Ça veut dire que tant que tu n'auras pas la lumière du soi, tu auras cette difficulté à voir clairement les choses. Il faut bien comprendre que quand on parle de lumière et de ténèbres, donc de voile, hein, de ce qui voile la réalité, c'est quelque chose d'éminemment technique et scientifique. Plus un être se lâche, plus il se laisse aller à la dépendance et plus il s'aveugle. Et il est dans la fausse lumière. C'est-à-dire, lui est intimement convaincu qu'il est dans ses certitudes. Ce qui veut dire que, pour résoudre ce que tu évoques, il faut symboliquement poser sur la table les choses. La précipitation empêche le discernement. Je reprends ce que j'ai déjà évoqué, mais qui va vous permettre de voir comment ce discernement s'épanouit. Quelqu'un vous traite de con, vous lui envoyez un pain.
Normal.
Complet ou pas complet, hein? Complet ou pas complet?
Avec farine noire.
Et des céréales.
Deuxième usage du mental. Toi, mon gaillard, tu paries rien pour attendre, je te réouvrirai. Donc là, il y a intervention du mental. Troisième stade, il y a discernement. Cet être est encore jeune en comportement et il est très dépendant, en fait, de force aveugle. Comment puis-je l'aider à devenir meilleur? Donc là, il y a exercice de discernement. Alors en fait, cela implique une démarche d'amour. aider l'autre à devenir meilleur. Ça n'est pas facile, et je dis.
C'est évident que ça réussisse.
Comment ?
De vouloir aider l'autre.
Si. Si.
Même.
Si. Tu as la facilité de l'aider, s'il peut comprendre. Tu as l'humour qui désarme. Et si tu te dis c'est pas possible, tu as la puissance du silence. Et tu penses que ta pensée n'est pas puissance ?
Si, si.
Si tu es en conscience de soi, l'aspect père en toi agit. Simplement, tu le formules en toi, dans ta pensée. C'est pour ça, si vous voulez, que dans cette démarche de rayonner, n'oubliez pas que la critique est du poison violent, séparatif. Analyser une situation, une relation, pour l'aider, vous le faites par exemple avec un autre, en appréhendant une faiblesse, mais dès l'instant où c'est fait avec amour, eh bien c'est projeté. Le schéma, le challenge, si vous voulez, c'est de dire, bon, c'est pas en traitant les cons de cons qu'on va s'en débarrasser.
Hein. Surtout qu'ils seront moins cons.
Vous savez, il y a 6 niveaux de cons. Hein.
Voilà.
Il y a 6 niveaux de cons. T'es toujours le con d'un autre.
Des fois, on est plus convaincant, tapant d'abord en discutant après.
On est plus con quoi ?
Vaincant, vainqueur.
Ah, nous rentrons dans le dictionnaire des cons.
Alors, il y en a pas mal.
L'important, c'est d'être un convaincu. Hein? Ah non, un convainqueur, ça. Non, ça. Là, où va-t-on ? Bon, alors, pour arriver à l'illumination, cinquième initiation. Nous devons être dans cet instinct, cette spontanéité spirituelle divine, j'emploie les deux. Nous devons vivre en double regard permanent. C'est-à-dire tout voir d'en haut vers le bas. Même si après, en bas, nous avons à appréhender nous allons vivre à ce moment-là à la lumière claire et froide du Père en nous. Et le Père vous dirait, ce n'est pas parce que je ne dis rien que je ne vois pas. Sur le plan planétaire, lorsque 3/5 de l'humanité seront rentrés dans le cinquième règne, cette présence qu'on appelle le Père pourra réapparaître en présence terrestre. lorsque l'être sera devenu le Père. Il assumera son dharma, son contrat de vie. Et il sera l'œuvrier du dessein divin qui, pour ce système solaire, est instauré sur la Terre de justes relations. À la fois humaine, à la fois avec les règnes de la nature et avec les règnes spirituels et divins. La quatrième hiérarchie créatrice doit synthétiser les six autres. Si vous prenez vos centres énergétiques et le joyau au sein de ces centres, quand vous êtes au parfait équilibre relationnel, les sept hiérarchies créatrices ont chacun un joyau.
Alors là, par rapport au texte qu'on a lu, le début que j'ai lu, c'était cette importance de se centrer dans la tête. Mais là, le premier joyau dont tu parles, il est là.
Mais dans la tête, il y a la correspondance des sept, des centres.
Donc c'est bien se centrer dans la tête, c'est pas le cœur.
Non. Tu as à avoir le parfait équilibre de l'ensemble. Parce que à un moment donné, tu deviens une fontaine pour les règnes. Je vous rappelle que quand l'être est relié à sa racine de vie, il devient une fontaine planétaire. Ce qui veut dire qu'il est impressionné par les règnes supérieurs et lui-même impressionne les règnes de la nature. Minéral, végétal, animal, l'homme. Le quatrième règne fait partie des règnes de la nature. Hein. Attention, ne perdez pas cette vue, c'est lunaire. Le quatrième règne appartient encore aux robes de la mer. Tes centres ont leur correspondance dans le centre de la tête.
Mais ce premier joyau dont tu parlais, il est là alors ?
Non, il est au-dessus, mais ne sois pas, si tu veux, à chercher l'aspect technique des choses, c'est ta démarche qui génère le parfait équilibre. C'est ton champ de conscience qui automatiquement enclenche l'équilibre d'un centre. C'est les yogas. Hein? Et plus tu montes en yoga, donc en union, plus automatiquement les yogas en dessous, avec leur correspondance des centres, se met en harmonie. Ce qui veut dire qu'on n'a absolument pas à s'occuper de l'aspect technique. Dans ta voiture, tu te préoccupes des leviers. Tu t'occupes pas de ce qui se passe dans le moteur. Alors, passe bien tes vitesses et le moteur suivra.
De toute façon, dans ta carna, sur la circulation.
Ah oui, oui, là, le canal, quand il est établi, voilà, il est en place. Alors, simplement, comprenez que, en permanence, dans votre vie, vous vous trouvez sur les niveaux de conscience des sept plans. Quand vous êtes en conscience monadique, je vois pas très bien, par rapport à... Là, quand vous êtes en conscience monadique, il y a sept sous-plans dans le plan monadique. Eh bien, ces sept sous-plans vous renvoient aux sept plans inférieurs. Mais par conséquent, vous travaillez avec chaque sous-plan du plan inférieur. Donc, vous avez les concordances numériques. Quand vous êtes sur le deuxième plan, le plan monadique, vous travaillez sur les deux sous-plans, le deuxième sous-plan de chaque plan, automatiquement, qui entraîne le reste. C'est pour ça que nous sommes invités à être en conscience monadique et par conséquent, je ne parle pas de l'illumination telle que nous l'avons dans le Raja Yoga, puisque là, en fait, c'est le yoga maîtrise du mental. Je vous parle du yoga supérieur qu'on appelle le yoga de synthèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les champs de conscience progressent, plus la porte de sortie du règne humain se recule. Au temps des Égyptiens, la porte de sortie, c'était la troisième initiation. Aujourd'hui, on est à la sixième pour sortir du règne humain. C'est bon, ça va, vous suivez ou... Alors, deux parenthèses pour ce qui est au-delà, c'est-à-dire nous parlions de la cinquième, hein, c'est pour que vous voyez ce que veut dire l'illumination. Au-delà du service, il y a la libération. Mais là, on rentre dans le dharma. Et si vous revenez sur un des aspects de l'énergie de volonté, c'est l'aspect libération. Et il s'agit en fait là d'assumer ce comportement à aider les autres à devenir meilleurs, par conséquent attendre l'autre joue, et par conséquent comment puis-je faire pour libérer l'autre de ses enchaînements, de sa prison, de ses dépendances.
Donc c'est la libération de l'autre.
Oui, oui, ou de l'humanité, ça va jusqu'à l'humanité. Hein? Mais c'est pour compreniez que on est le service, c'est la démarche vis-à-vis de l'aspect volonté. Ce qui veut dire, pour parler simplement, quand quelqu'un assume un rôle de serviteur dans tel ou tel domaine d'activité. Eh bien, il est déjà en épanouissement de cette énergie de volonté divine. Il y rentre dans le divin. Le spirituel est lié à l'énergie d'amour. Le divin, c'est la volonté de bien de l'ensemble. Donc la volonté divine. Bon. Quand il assume un rôle de serviteur, il est dans cette démarche de servir, par conséquent, d'intégrer la volonté divine. Le serviteur doit devenir l'initié. Ça veut dire qu'il doit avoir son sac à dos avec son dharma sous le bras. et pas son karma sous le bras. T'es pas obligé de tout noter, hein. Faut me zapper, hein, quand tu sens que vraiment, genre descend de niveau, là, il faut me zapper. Hein.
T'inquiète pas, j'ai pas écrit ça.
Mais ça, l'initié, ça donne une idée beaucoup plus inatteignable. Quand on a un certain nom d'initié, on a l'impression que c'est des êtres qui...
Ah mais maintenant, le mot initié est employé pour tout. T'es initié au golf, t'es initié à la chasse, t'es initié... Aujourd'hui, t'as tous les initiés qui courent sur les terrains de football, là. T'as pas vu, là ? Que d'initiés !
Quand on dit initié comme ça, avec un grand I, ça donne l'impression de quelqu'un qui va pouvoir...
L'initié, c'est celui qui a ouvert le livre, à qui a été ouvert le livre de la connaissance, le livre de la sagesse et le livre de la vie.
Mais on peut être initié malgré soi, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire, pleinement dans son dharma, sans être dans des connaissances qu'on va pouvoir... Expliquer.
Mais c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, au sens où tu as des êtres qui sont aux opérations de la vie et qui n'ont pas forcément, dans cette vie, choisi de retrouver en connaissance de cause. Mais ils le portent en eux. C'est un instinct.
Ils l'ont choisi avant de venir.
Comment ?
Ils l'ont choisi avant de venir.
Oui, ce qu'il faut...
C'est un état,
ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça s'inscrit dans le combat entre la lumière et les ténèbres.
Ça fait partie des atomes permanents de la personne.
J'évoque là le fait que les chevaliers de la lumière... ne s'arment pas d'armes qu'ils peuvent avoir au-delà de la dimension du combat. Ce qui veut dire, pour parler autrement, il y a une telle puissance de lumière à la maison du Père que si le Père voulait clarifier la situation, tout serait balayé. Terminé, on n'en parle plus. Ça suffit. Et en fait, chaque être à son niveau s'auto-limite à la dimension du combat. Je vais prendre une image pour que ce soit plus clair. C'est comme si au Moyen-Âge, où il y avait l'arbalète les flèches et les arcs, on s'amenait, n'est-ce pas, comme dans... Et on sortait des mitrailleuses et tout ça. Bah. Donc on joue le jeu comme il est sur le terrain.
On se met
à la portée. Pour montrer que, avec la même dimension, on sait maîtriser la situation.
Oui, il passe par nous pour apurer ce qui était impuré.
Oui, c'est pour ça que Maitreya, il y a 2000 ans, eh bien, il prend le corps de Jésus et puis voilà. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les apôtres autour de lui étaient des initiés de longue date, qui avaient joué la robe de bure. D'ailleurs, vous voyez très bien que dans les églises, la tradition se poursuit. Bon.
Ça veut dire qu'en se développant, on va trouver notre dharma, c'est pourquoi on est venu dans cette vie-là, qui peut être une action précise, mais ça veut dire que tu pourrais trouver, par exemple, je sais pas, une réincarnation d'un grand être, un Saint-Germain ou autre, qui dans cette incarnation pourrait être un simple artisan. Qui va faire des meubles d'une certaine façon, en laissant de côté tout ce qu'il a acquis.
Ah, c'est le cas, par exemple, d'un Léonard de Vinci. C'est le cas d'un Léonard de Vinci. Il exprime la beauté.
Après, son choix qu'il a fait, c'est en fonction aussi du travail qu'il a fait.
Oui, et il faut comprendre que tout être a une première période de vie. Aussi grand soit-il en tant qu'être, où il doit montrer qu'il émerge de la difficulté terrestre.
Réaffirmer son choix.
C'est pour ça que vous prenez par exemple Siddhartha, il a fallu sortir de sa dimension de prince, enfermé dans son bocal. C'est pour ça que tout être va montrer qu'en tant qu'être, il sait se libérer de l'illusion du matérialisme.
Et là, les outils peuvent être réactivés après.
Ah oui, parce que tu démontres que en fait, tu n'es pas dépendant de ça. T'as su t'en libérer. Et chacun se trouve dans une première période de vie avec soit des épreuves et des challenges karmiques, soit purement et simplement d'émerger simplement en disant « ce monde-là ne peut pas me retenir ». Mais ça ne sera pas facile, est-ce que vous comprenez ? Donc, être un chevalier de la lumière, ça implique de tomber, comme on dit, voilà, et de se mettre à la portée de la situation.
C'est héroïque.
Oui, il y a un côté héroïque.
Bah, oui, de prendre des risques.
Comment ? Ah bah autrement, attends, si, en triomphe sans gloire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez les uns les autres, parce que c'est, comme on dit, l'usage, vous pouvez être tombé dans un milieu qui s'oppose. Voilà, et il vous a fallu émerger de là. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, seulement un cinquième du cinquième règne émerge. Quatre cinquièmes sont pris dans le matérialisme. Et il joue dans le cas inverse, je vous le rappelle.
Mais il y a du retard là ou...
Comment ?
Il y a du retard ou... ou c'est qu'on est au début de cet éveil
La lenteur suisse, n'est-ce pas ?
Regarde, t'es là.
D'ailleurs, le Suisse devrait avoir comme symbole la tortue. Lentement, mais sûr. Mais c'est bon en fait. Non, il n'y a jamais de retard, allons, il n'y a jamais de retard. Simplement, le temps est précieux. Ouais. Ça, comprenez qu'au niveau karma dharmique, c'est important. Le temps est précieux.
Alors justement, si on a un peu traîné à s'éveiller et à comprendre dans sa vie incarnée,
oui. On n'a pas pris
on a perdu du temps. Hein.
T'as fait atmode. Liberté. Liberté. Ton juge karmique, c'est ton être. Après, tu as le regard d'un père, qui est un seigneur de karma dharmique, et qui, lui, gère, surveille comment tu deviens réellement le père. Retenons qu'il y a une nuance entre le disciple et l'initié. J'entends par là la même nuance que même le plus grand des dieux est un étudiant pour une évolution supérieure. Vous comprenez bien ? C'est-à-dire qu'en fait, l'initié est un disciple, mais pas un disciple de quelqu'un, il est un disciple des lois de la vie. Bon, et ces lois progressent à l'infini. Vous avez des lois planétaires, vous avez des lois solaires, vous avez des lois cosmiques, des lois des sept univers, voilà. La chose à assumer, c'est de dire « s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Parce que l'être doit avoir l'intime conviction, donc la foi, de ce qu'il sait et de ce qu'il est.
Mais est-ce qu'on peut dire que ces différentes lois d'évolution sont de nature différente, mais ont le même dessein ?
Alors, tu comprends bien qu'une loi cosmique va avoir les lois subsidiaires qui vont devenir des lois solaires et des lois planétaires. Nous sommes toujours dans un processus où l'absolu, c'est l'un qui se déploie à l'infini. Simplement, je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Si vous comprenez que toute vie a reçu une richesse de la vie qui lui est particulière, vous avez là la notion de l'infini. Alors ne vous choquez pas sur les limites du mental. Toute manifestation est issue d'une pensée. Pouvez-vous imaginer un instant la limitation de l'esprit ?
Ben ouais, j'ai un projet. Hein ? Esprit très limité.
Ouais. Pourquoi t'as la tête dans le seau ? Hein ? Alors imaginez, non mais essayez d'imaginer ce que ça va donner. Ça veut dire qu'une vie dans l'océan de vie est arrivée à l'individualité de conscience. Mais en fait, l'individualité de conscience entame l'ouverture à l'infini. Cette vie individuelle, dite point de départ humain, va générer des mondes à l'infini, dont elle aura assumé la responsabilité. Et là, vous comprenez ce qu'est l'espace abstrait infini, absolu, pardon, hein, qui fait que, voilà. Nous quittons, sans le quitter, l'évolution de l'homme dans le cinquième règne, et nous attendons la troisième partie de ce champ d'évolution qui va le mener dans le sixième règne, c'est-à-dire l'aventure semence du troisième système solaire, lequel sera sous l'émergence de l'énergie de volonté, au même titre que ce deuxième système solaire fut et l'émergence de l'amour-sagesse. Ce qu'on va appréhender en dimension de groupe, c'est en fait l'émergence des semences du troisième système solaire, la vie de groupe qui doit monter et qui doit nous amener à l'unité.
La vie de groupe qui doit nous amener à l'unité.
Ouais.
Mais alors là, sur Terre, ou de la création d'un autre système ?
Non.
C'est maintenant. Tout de suite ou maintenant, si tu veux.
Non. À part que la Terre a des plans subtils et que le troisième système solaire démarrera du plan monadique, les êtres qui auront rejoint l'un, leur un à eux, la monade, vont repartir de là. Mais comme ils auront maîtrisé les plans supérieurs, ils n'auront pas perdu leurs racines. La vie a traversé le minéral en toi, tu as tes racines du minéral. Et par ton corps éthérique, tu es relié à l'âme du minéral. Par ton corps émotionnel, tu es relié à l'âme du végétal.
Et ce sont donc les plans inférieurs.
Pardon ?
On est revenu en fait au plan inférieur.
Tu prends le plan astral, tu le sépares en deux, substance et matière. Eh bien, le végétal, dans son aspect supérieur, fournit l'essence de ton corps émotionnel. Mais lequel, là je vous entraîne dans des schémas qui vont vous échapper, hein, mais lequel doit se résorber dans l'aspect inférieur du mental, oui. Puisque l'astral est une excroissance du mental. Donc ça doit se traduire, si tu veux, par imagination créatrice. Mais le végétal fournit cette essence de sensibilité qui permet l'imagination créatrice. Est-ce que tu vois ? Parce que en tout champ de conscience, tu dois avoir l'aspect mère et l'aspect père. Hein, du... Ah oui, mais attends, je suis obligé de vous rattraper. Parce que, non, mais c'est vrai qu'à des moments, si tu veux, quand tu es dans ces abstractions-là, si tu n'as pas pu clarifier et mettre à portée, bah, comme on dit, ça vole au-dessus. Mais tout à fait. Ce qu'on va entamer prépare les êtres à s'avancer dans la troisième partie du cinquième règne. Alors ne soyez pas étonnés si c'est ardu à appréhender. La finalité étant de sortir du règne humain, c'est-à-dire du cinquième règne. Vous allez nous sommes observés dans notre appréhension de ce monde, de la volonté divine, dans notre manière d'assumer avec compétence et maîtrise cette énergie. En vous rappelant que dans le quatrième règne, et lorsque l'énergie d'amour ne stabilise pas l'intelligence et que la volonté commence à émerger, vous avez des dictateurs. Je vous rappelle que chaque énergie est triple. Vous avez dans chaque énergie triplicité. Et que par conséquent, s'il n'y a pas l'aspect juste relation, c'est-à-dire amour, eh bien, vous avez l'énergie de destruction négative qui œuvre. Vous auriez des questions, des précisions ? Dans ce processus au niveau technique, c'est le centre du cœur qui a essentiellement fonctionné. Maintenant, ces trois centres qui vont fonctionner plus particulièrement, le centre de la tête, le centre du cœur et le centre basal. C'est pour l'anecdote, hein, mais c'est simplement pour que vous compreniez. Là. Et c'est plus particulièrement le centre de la tête qui va synthétiser. Quand tout à l'heure, et là en fait, vous appréhendez l'aspect père. Alors, je rappelle, il me semble que je vous l'ai donné, la représentation symbolique sur le Bouddha, vous savez, il y a cette pomme de pin au-dessus de la tête avec des petits cercles, et en fait c'est pour indiquer les filaments de liaison avec les vies cosmiques. Ce qui veut dire qu'à partir de là, les êtres vont lentement mais sûrement être traversés par des vies planétaires, des vies solaires et des vies cosmiques. Et n'en faites pas une montagne. Vous prenez une grande vie cosmique. L'être est qualifié, c'est qualifié pour pouvoir supporter sa fréquence la plus basse. Il va vous dire, mais tu es la vie. Je suis la vie, alors je suis en toi. Mais maintenant, je peux m'y attarder. Voilà.
C'est-à-dire que ces vies cosmiques vont utiliser donc l'être comme un canal pour s'exprimer.
Oui, parce que le dessin de la vie en manifestation, dans cette phase où l'on est, c'est de pouvoir dire « Moi, Dieu, je suis matière ». Donc ça veut dire que le plus haut des cieux doit descendre sur la terre. Qu'est-ce qu'on attend pour assumer ?
Mais c'est une fois qu'on assume que nous, on peut faire le même schéma, c'est-à-dire en tant que Dieu de nos propres manifestations, descendre, aller les voir et leur dire...
Oui, mais ça, c'est parce que... C'est pas parce que... C'est parce que quand tu vas vers l'un, donc vers le Père, la synthèse se fait.
Mais c'est là qu'on va avoir des... vision de tout ce qu'on a pu générer négatif.
Non, là encore, tu tiens des propos mystiques.
Oui. On n'est plus là-dedans. C'est plus
non, clair, ça, non. Tu dois être les pieds sur terre. Tu dois pas idéaliser pour idéaliser. Tu dois te dire comment puis-je faire avancer la réalisation du plan divin. Donc, qu'est-ce que je peux œuvrer, m'activer pour.
Ouais, donc c'est le concret, le présent.
Ah oui.
C'est là.
Oui. Il ne suffit pas, si tu veux, d'être là à dire tout le monde il doit être beau, tout le monde il va être gentil. La nuance qu'un mystique, c'est un, excuse-moi l'expression, c'est un mouton. Et l'occultiste, c'est un bouc. Il doit monter la montagne.
Mais l'occultiste a plus besoin d'affronter le gardien du seuil, de le voir, de l'intégrer.
Je vous expose la théorie de tout le système. Après, chaque être va développer un panel relatif de réalisation. C'est pour ça, et c'est malheureusement le problème aujourd'hui, c'est que même des maîtres ont encore de la transmutation à faire. C'est-à-dire qu'ils ont encore des attaches lunaires. Voilà. Ce qui veut dire que, pour parler autrement, que des êtres avancés, eh bien, se prennent encore les pieds dans le tapis. Vous savez, quand le maître des guides, il y a 2000 ans, vous dit « beaucoup seront appelés, peu s'éliront », ça veut dire que beaucoup d'êtres concernés par leur stade de réalisation vont être appelés. Comment vont-ils assumer ? Étant entendu que, un, il faut dépasser la transmutation, il faut assumer la transformation, et il faut entrer, selon l'âge d'évolution, dans le service dharmique. Nos gens d'église n'ont absolument pas pénétré les phrases titres de livres du maître des guides il y a 2000 ans. Chaque phrase clé est un titre de synthèse de l'aventure céleste. Hein, quand il vous dit « tendez l'autre joue », il explique toute la démarche qu'on a développée précédemment. Alors, au fil de nos réunions, eh bien, on a préparé, développé, évoqué tout ça. Et puis aujourd'hui, voilà, on fait un bref aperçu de synthèse de pourquoi de tout ça. Mes propos vous engagent. Hein. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas informé. Hein. Hein. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Hein. Bon.
Tu étais bien débrouillé là.
Hein.
Tu étais bien débrouillé là.
Je ne suis pas un homme fréquentable. Parce que ça engage en fait. Mais il faut vous débarrasser, parce que ça c'est encore, si vous voulez, les voiles qui ont été mis par le négatif, à savoir, si je reprends ces voiles, l'être qui est du cinquième règne, au départ, quand il s'analyse, il dit « mais je suis pas comme les autres, moi, je dois pas être normal, je me comporte pas comme eux », et donc il se sent bizarre. Bon. Et puis après, bah, il est obligé d'aller à tâtons. Bon, le problème, c'est que quand il arrive à avoir en clair les choses, il recommence dans l'autre sens là. Il se remet lui-même un voile en disant « mais je suis concerné, moi, je serai concerné par tout ça, il faut que j'assume tout ça ». Ce qui veut dire que vous avez un autre voile à franchir, qui est le voile de l'aspiration et qui, vous devez le franchir, cette porte doit être franchie, au sens où l'étudiant se dit « oh là là, je suis étudiant, c'est cool, c'est tranquille, étudiant de profession », et puis en fait, il réalise un jour que ben non, il doit assumer, alors là... Question ? Tout est avalé ? Tout est bien ? Magnifique.
Non, il faut qu'on digère.
Digère.
Non, on digère, mais là, t'as fait déjà manger, tu as apporté ton éclairage et tu as expliqué, enfin, j'ai compris par tes propos. C'est ce que j'avais pas compris depuis ce temps. Quoi.
Oui, mais c'est le but aussi. Hein,
c'est
le but.
Oui, c'est ça. Il y a des révélations comme ça.
Bah, c'est-à-dire si voiles, vous voulez, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extraordinaire, en fait, n'est que du merveilleux. Et que par conséquent, c'est à la portée des êtres que simplement qui relèvent les manches en disant, bah voilà, je sais ce qu'il en est maintenant autour de moi. Étant entendu, n'oubliez pas que ne soyez pas inquiets, le Père est en vous. Et vous allez voir, quand il œuvre, il s'appelle Balthazar. Le fameux Balt, n'est-ce pas, qui va provoquer des situations à votre portée, en vous disant, faites attention, ne vous attendez pas à des grandes choses, vous allez d'abord être testé sur des petites choses, hein, parce que le piège c'est aussi ça, l'être se dit, ça y est, maintenant je vais avoir des grands trucs à assumer.
Vu que c'est une chance, en guillemets, énorme de pouvoir être là, puis de bénéficier de la synthèse que tu peux faire de l'œuvre monumentale Blavatsky et Bellet, en quelle mesure aujourd'hui, pour nous, bon, except selon le programme spécifique de chacun, il faut encore passer des heures de lecture là-dedans directement. Enfin, tu me conseilles, à part de dire que...
C'est-à-dire, si je peux me permettre... La journée d'un être, c'est d'abord de se relier le matin. C'est-à-dire d'avoir le canal en clair. Ensuite, il va à ses occupations. De temps en temps, il peut respirer divinement. C'est-à-dire s'aligner. Il se sent un peu éprouvé par son quotidien. Il respire énergétiquement. Et le soir, il fait un travail de rayonnement, de méditation. La méditer, c'est être canal. Alors pour terminer ce cycle et entamer le suivant, je vais vous dire la première et plus ancienne méditation qui ait été donnée aux hommes.
La prière ou la méditation ?
Non, la méditation.
Oui, ben c'est l'invocation.
C'est quoi l'invocation ?
La grande invocation.
Non. Je te parle d'une méditation qui a plus de 12 000 ans. Conduisez-nous au Seigneur.
Oui, c'est ça.
Non.
Mais laisse parler.
La grande invocation, c'est du point de lumière.
Oui, mais on en a parlé l'autre
fois. On n'a pas entendu.
Alors conduisez-nous.
Au Seigneur, de l'ombre à la lumière, de l'irréel au réel, de la mort à l'immortalité, du chaos à la beauté, de l'individuel à l'universel, de l'excès au juste milieu, du désert à l'oasis, à la vie plus abondante, au point de vue universel, de réalité et de lumière, pour de là y travailler.
Ouais, c'est la fin, justement, je ne l'avais pas bien compris quand je l'ai enregistré la dernière fois. Donc, désert à l'oasis, à la vie
plus abondante, au point de vue universel,
point de vie
universel, de réalité et de lumière, pour de là y travailler. Eh bien, vous voyez que, en fait, ce rendez-vous de 12 000 ans était projeté à l'ère du Verseau, où nous sommes. Et tout disciple qui veut devenir initié, il assume pour lui et les autres cela. Et ça se termine. Et de là, y travailler. Voilà. Donc, transmettre. Quand vous faites ça, eh bien, vous êtes canal. Vous êtes canal pour libérer, vous êtes canal pour détruire. Vous êtes canal pour organiser un nouveau monde. Les trois aspects de la volonté divine. Voilà.
Mais pour moi, quand je viens là, je médite, parce que tu me dis, je sens bien que ça tire mon aide vers des conceptions qui me parlent, mais que je n'aborde pas dans mon quotidien. Quand tu me donnes ça en disant le soir, vous pouvez, il s'agit de méditer, pour moi, la première impression, c'est que c'est une prière.
Non.
C'est pas une prière du tout.
Non.
C'est un texte à méditer, c'est-à-dire à intégrer et à mettre en action.
Pourquoi c'est pas une prière ? Parce que, en fait, c'est pour toute l'humanité qu'est faite cette invocation.
Comme la grande invocation.
Oui, et ta prière, elle n'est pas là, puisqu'en fait, c'est justement, ça se termine pour accéder à l'un et, dans cette dimension, l'assumer. Ben ça, c'est pas une prière. Hein.
Ah, ben c'est pour le collectif.
Ah, ben évidemment, c'est pour l'humanité une.
Mais comme la grande invocation, moi, je la fais toujours.
Oui, mais.
Oui, mais. Attends. La grande invocation. Elle puise l'énergie sur les trois plans supérieurs. elle définit bien les afflux, qui donc c'est de l'énergie de transformation. Si tu prends cette invocation, c'est une invocation de libération de l'homme. Conduisez-nous du désert à l'oasis, de l'excès au juste. Je vous l'ai donné, l'excès au juste milieu.
Oui, oui.
Ben, oui, oui.
Hein,
oui.
De l'irréel au réel, mais c'est la libération, c'est l'invocation de libération pour l'homme. C'est pas une prière.
C'est sur la manière, c'est-à-dire qu'on a été élevé, on va dire, dans un milieu où la prière, c'est je dis un texte. La méditation, c'est soit
je j'assume dis, ce soit, que je dis. J'assume ce que je dis.
Je crois que la question, c'est plus sur comment on travaille avec ce texte.
Mais ce texte, si tu le vis, c'est-à-dire que tu ne l'exprimes pas comme des litanies, n'est-ce pas, hein, mais tu le vis en disant, quand je dis du désert à l'oasis, je sais très bien ce que ça veut dire. Le désert, ça veut dire que c'est le terrain de souffrance, le terrain ardent par lequel l'homme doit passer pour se libérer. Et l'oasis, c'est l'oasis de vie. Ça veut dire que moi, qui ai reçu la connaissance, eh bien, je vais vers le Père, je tourne le dos à la porte du Père et je retourne au désert pour sauver mes frères. Alors, il ne faut pas dire que c'est une prière, puisque en fait, c'est plein de tiroirs de vie, tout ça. De l'excès au juste milieu, mais attendez, là on est dans l'astral. Hein, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? C'est une invocation de synthèse.
C'est bien que ça ait été donné d'ailleurs il y a 12 000 ans, c'était probablement l'ère du lion ou peut-être du cancer, mais que c'était donné dans l'ère du lion justement. Qui indiquait bien le dynamisme à faire et de là à en faire quelque chose, de là à y travailler.
Et le serviteur, quand il dit ça, il sait très bien quel est son service. Tu dis, tout à l'heure on a évoqué devenir le serviteur, hein, assumer le service. Mais là, tu formules en fait ton dessein. En faisant cette invocation, tu formules ton dessein. Père, je sais ce que j'ai à faire.
Donc on est presque là de la méditation, parce que moi quand j'entends que la méditation c'est se focaliser sur un point de réflexion haut et essayer d'en faire le tour, etc., là, moi ça me terrorise. Moi ça me fait chier vraiment. Il
va falloir que tu choisisses d'autres mots peut-être que des bas-fonds de l'astral.
Oui, j'ai entendu. C'est-à-dire que la méditation décrit comme une analyse, une tentative de compréhension même de sujet de vie.
Alors ça me...
Mais est-ce que tu réalises que Maitreya dit « je suis la voix » Ça veut dire « je suis le canal de la vie ». Je suis canal de la vie plus abondante. Et quand tu fais cette invocation, tu répètes en détail ça. Tu dis « je suis la voix ». Eh bien, « je suis la voix », c'est... Dans la forme, une méditation, dans la réalité, c'est un centre d'énergie qui rayonne. Après la nourriture, je ne sais pas s'ils vont avoir encore faim. Ou alors ils vont avoir très faim.
C'est là qu'on a cuit, non? Non, c'est là. Voilà.